Sahel. Donc là, vous avez un exemple
du
partage du fardeau à l'intérieur de l'Alliance.
Pourquoi l'Estonie va dans Barkhane?
Parce que c'est pour eux, ils reconnaissent l'importance.
C'est un échange de bons
procédés. Oui, bien sûr. Et puis c'est aussi une forme de reconnaissance que malgré la position géographique de l'Estonie, effectivement aux frontières de la Russie, que la lutte contre le terrorisme est également une menace importante pour ce pays. Et pour la France, oui, on a un ancrage dans le Sud et nos priorités sont principalement, et Macron l'a rappelé, la lutte contre le terrorisme, mais on reconnaît aussi les menaces qui se présentent sur ce qu'on appelle grossièrement à l'OTAN le flanc Est de l'Alliance. Donc il y a quand même ces solidarités à l'intérieur de l'Alliance.
Alors Nadia, la France, le bouton, le parapluie nucléaire.
Oui, parce qu'avec son arsenal nucléaire, parce que l'OTAN c'est aussi le parapluie nucléaire américain, avec son arsenal nucléaire unique en Europe, la France peut-elle jouer le rôle de parapluie pour le reste de l'Europe? C'est une question qui se pose et qui s'est posée en Pologne notamment, quand le pays a appelé de ses voeux un parapluie nucléaire européen, quand ça a commencé à tanguer du côté de la Maison Blanche. Mais c'est surtout en Allemagne que le débat a été le plus poussé, le plus visible. Ça a commencé l'an dernier quand le journal allemand Die Welt a posé cette question à la une, avons-nous besoin de la bombe? Alors c'est un débat qui a tourné court assez rapidement, parce que l'Allemagne a signé le traité de non-prolifération, elle n'a pas le droit de se doter de la bombe thermonucléaire. La solution, ce serait de se placer sous protection nucléaire française en payant une partie des coûts, ce que l'Allemagne n'aime pas tellement faire. On a parlé donc à ce moment-là de dissuasion élargie ou encore de dissuasion concertée, quoi que ça veuille dire, qui pourrait donc s'étendre aujourd'hui à l'ensemble des pays membres. Il y a un certain nombre d'obstacles qui ont été listés. On n'est pas sûr d'abord que la France ait très envie de mettre à la disposition de tout ce qui fait sa particularité, puisqu'après le Brexit, la France sera la seule des 27 à avoir la bombe. Pas sûr non plus que tous les pays européens aient envie de mettre la main à la poche, ni que les opinions publiques aient envie de payer pour ça. Et surtout, la France inspire peut-être moins confiance que les États-Unis, Pierre Grosser. Est-ce qu'on peut imaginer, c'est totalement délirant, ou est-ce qu'on peut imaginer que le leadership français passe par ça, qu'on partage notre arsenal, notre bouton, et que ça rassure
tout le monde? Très peu imaginable. Les États-Unis ont une tradition de ce qu'on appelle effectivement cette dissuasion élargie, c'est-à-dire que pour le Japon, la Corée du Sud et pour l'Europe pendant la guerre froide, il y avait cette idée qu'ils étaient prêts d'une certaine façon à se suicider. C'est quand même pas rien, se suicider si l'armée rouge envahissait l'Allemagne. Donc à sacrifier, comme on disait à l'époque, Chicago pour Hambourg.
Il y avait cette idée néanmoins.
Non, mais je veux dire, c'est au cœur de toute leur doctrine et tout le problème est la crédibilité, la crédibilité de cette dissuasion élargie. Donc rentrer de notre côté dans cette dissuasion élargie, ça veut dire là aussi que si l'Estonie, dont on parlait tout à l'heure, se faisait grignoter par la Russie, ce qui est une hypothèse d'école, eh bien la grande question, c'est est-ce que nous aussi, on se suiciderait pour... Et le problème, c'est qu'en dernier recours, c'est quand même à ce moment-là le président français qui prendrait la décision. Est-ce qu'on peut partager ce genre de décision? C'est quelque chose qui est extrêmement compliqué. J'ai du mal à imaginer, à l'intérieur de l'UE, par exemple, une réunion d'urgence avec tous les membres de l'Union européenne, avec un vote, etc., la majorité qualifiée, enfin bon, toutes les procédures européennes qu'on connaît, pour savoir s'il faut appuyer sur le bouton. D'ailleurs, ce sera un petit peu tard, à mon avis. Donc voilà, je pense que c'est très très difficile de partager nucléaire. Et c'est une des raisons effectivement pour lesquelles le général de Gaulle a voulu avoir la dissuasion nationale. Après, je le rappelle quand même, en 58, avoir souhaité avoir un triumvirat États-Unis, Angleterre, France qui dirige l'Alliance Atlantique. C'était ça son premier rêve. Et ensuite, il est passé à une politique plus autonome.
Mais en dehors de la question des protocoles compliqués en Europe, est-ce qu'il n'y a pas aussi un problème d'état d'esprit? C'est-à-dire, est-ce qu'on n'est pas resté en 1989 dans l'idée que c'était la fin de l'histoire, et est-ce qu'on n'est pas devenu des herbivores, quoi? Est-ce que miser sur une défense européenne n'est pas un petit peu...
Parce que miser sur une défense européenne est une illusion.
Oui.
C'est une nécessité absolue. Par contre, je crois que vous posez la question sur les armes nucléaires. Doit-on se débarrasser des armes nucléaires? La réponse est oui, mais pas maintenant. On ne peut pas aujourd'hui, ça représente un élément de puissance et un élément de protection tout à fait fondamental quand d'autres grandes puissances en ont. Je reviens sur l'affaire du découplage nucléaire entre les États-Unis et l'Europe. Ça, c'est une vieille histoire. Ça vient des années 50. Quand les Américains décident, alors c'est un tout petit peu compliqué, mais je vais expliquer. Quand les Américains décident de quitter le concept de destruction mutuelle assurée, c'est-à-dire que quoi qu'il arrive, je mourrai avec vous, au concept de riposte graduée, qui était en fait de dire on va faire la guerre chez vous, mais avant de sacrifier Washington, on verra bien. Et c'est exactement pour ça que Charles de Gaulle a compris que ça n'était plus fiable. Et on est exactement dans la même situation, finalement. Est-ce qu'aujourd'hui, un pays européen peut penser que la France va sacrifier Paris pour Vilnius? Je ne crois pas.
On n'a pas, pas été en Ukraine, mais, en l'occurrence, donc on n'irait pas davantage.
De l'OTAN.
À nos frontières.
Voilà, mais je crois que c'est extrêmement compliqué. Pour utiliser l'arme nucléaire, il faut une volonté politique légitime. Et tant qu'il n'y en aura pas en Europe, eh bien l'arme restera française. Elle ne sera pas européenne.
La question justement de est-ce que c'est nécessaire de renforcer les capacités de défense européenne, bien sûr, mais ce qui aussi freine nos efforts, à chaque fois l'obstacle principal, ce sont les États-Unis. À chaque fois qu'on prend des initiatives, comme l'initiative d'intervention européenne sous l'impulsion à nouveau française, sur le fonds de défense européen qui cherche aussi à renforcer notre base industrielle en Europe, tout de suite, ça suscite à Washington justement un sentiment de rejet, notamment sur le plan industriel, en se disant ils sont en train maintenant, les Européens, de vouloir nous concurrencer et de moins acheter notre équipement militaire. Et donc l'OTAN, en quelque sorte, reste encore aujourd'hui un marché géant pour vendre les équipements militaires américains.
C'est le voyageur de commerce.
Très bien, bah, écoutez, sur cette conclusion...